Bienvenue dans Followers. Ils sont youtubeurs, instagrammeurs ou même tiktokers. Nous les connaissons à travers nos écrans, mais à quoi ressemble leur vraie vie? Je suis Pauline Borgia et dans ce podcast, je rencontre les créateurs de contenu les plus influents. Chaque jour, des millions de personnes, de followers, suivent les joies, les drames et le quotidien de leurs créateurs de contenu préférés. Ils sont parfois devenus nos amis ou même nos confidents. Mais qu'est-ce qui les motive et surtout qu'est-ce qu'ils défendent? Comment gagnent-ils leur vie? Comment ont-ils monté un empire avec un simple téléphone? Vous allez enfin passer de l'autre côté de l'écran. Ma nouvelle invitée s'est lancée sur YouTube en 2010 à l'ère du make-up et des hauls. Mais attention, c'est pas la vieille école qui a dicté ses codes. Dans l'influence, elle a su tracer son chemin. D'origine franco-algérienne, elle a toujours porté son identité avec fierté. On se souvient de ses vidéos lifestyle emblématiques où elle partage ses conseils sur le ramadan. Avec elle, on papote de tout. Lifestyle, business, voyage et depuis peu, mariage aussi. Un véritable melting pot d'inspiration et d'envie qui fait rêver 5,5 millions de followers. Aujourd'hui, elle va nous apprendre qu'être soi-même sur la toile, ce n'est jamais un tabou. Alors sans attendre, donnons le micro à Marwa, alias The Doll Beauty. Salut Marwa.
Salut.
Bienvenue dans Followers.
Merci de me recevoir.
Alors, je vais juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
bien sûr.
Et qui débarquent. Mm-hmm. Donc, tu as 27 ans.
C'est ça.
Tu es franco-algérienne. Mm-hmm. C'est très important de le dire, on en reparlera après. Tu vis à Paris.
Oui.
Et tu es créatrice de contenu et influenceuse. En gros,
c'est pour moi, c'est la même chose, oui. Ouais. Et businesswoman.
Tu publies des vidéos donc, de mode, de maquillage sur YouTube, mais aussi de ta vie.
Ouais.
Des vidéos aussi humoristiques. Qui n'ont rien à voir avec ta vie, juste parce que tu as envie de te marrer.
Clairement, en fait, mon contenu évolue avec ma vie et mes envies.
Oui, en fait, ce qu'on suit, c'est toi.
Bah, pour le coup, ouais, vraiment. Moi, je viens d'une génération qui n'avait pas de niche, qui était juste là pour être là, parce qu'on kiffait créer du contenu et on s'amusait. Et avec le temps, bah, forcément, il y a les stratégies et il y a les plans de com qui sont arrivés dans l'influence. Et du coup, bah, tout le monde a commencé à organiser son contenu. Et moi, je suis restée un peu à la vieille école. Enfin, je suis moi, quoi.
Alors, on va parler un peu des chiffres.
Oui.
Avant de rentrer dans le détail de ta vie. Alors, ces chiffres sont énormes. Tu as plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube.
Oui.
Tu as 3 millions 100 000.
Oui.
Parce que c'est pas rien, 100 000 de plus que 3 millions sur Instagram.
Oui.
Et alors, sur TikTok, on est déjà 400 000 à te suivre.
Ouais, mais je suis un bébé encore sur TikTok.
400 000, c'est cool, hein?
Ouais, c'est bien, c'est cool. Les chiffres, c'est vraiment cool. Mais ce qui est encore plus kiffant, c'est quand tu rencontres les personnes derrière ces chiffres, tu vois.
Oui, ça t'en parle beaucoup. Hmm? J'ai lu beaucoup d'interviews parce que vraiment, ça fait 3 jours que je mange Marwa.
Tu me stalk là-dedans, Joe Goldberg.
Je te suivais, mais là, je te stalk, vraiment. Et je vois que le truc qui te rend le plus heureuse, finalement, c'est de rencontrer tes fans, mm-hmm. mais même si tu comprends pas pourquoi ils t'aiment.
Bah, c'est normal parce que eux, entre guillemets, ils te voient tous les jours. Mais toi, tu les connais pas. Du coup, quand t'arrives à mettre un visage sur un nombre, un chiffre, bah, ça fait toujours plaisir, surtout que t'as tout le background de la personne, t'as toute sa vie, t'as ses petits souvenirs et tout. Et ce qui me touche vraiment, c'est quand elle connaît ta vie par cœur, en fait. En fait, c'est comme si elle avait partagé des moments de ma vie avec moi. Et en fait, je les considère énormément comme mes cousines, comme mes petites sœurs. Vraiment, je les chéris, je les protège.
Il y a beaucoup de filles.
Oui. Si on prend qu'Instagram, c'est 75-25.
Oui, donc il y a quand même des mecs.
Oui, quand même des mecs. Ouais. Ils sont discrets, mais quand je les rencontre, ils sont trop fun. C'est les plus fun, vraiment.
J'aimerais revenir déjà à la Marwa petite.
Ouh.
Parce que tu as un parcours assez particulier, finalement. Tu n'es pas l'influenceuse parisienne qui se prenait en photo dans les beaux endroits de Paris et qui est montée.
Ah ouais, non, c'est vraiment le produit d'un pur hasard. Vraiment ma réussite, entre guillemets.
En fait, t'es née en Algérie.
C'est ça.
T'as grandi jusqu'à tes 3 ans, c'est ça, en Algérie?
En fait, je suis arrivée pour la première fois de ma vie en France à l'âge de 3 ans. Mais entre mes 3 et 5 ans, j'ai fait des allers-retours avec ma mère. Et on s'est vraiment officiellement installés à l'âge de 5-6 ans.
Toi, tu vivais avec ta maman, toujours, toutes les deux.
Oui.
Vous êtes hyper fusionnelles, tu l'aimes beaucoup,
c'est
ta
meilleure amie. J'adore, ouais. C'est ma petite mamounette. Et en fait, on est arrivé, ma mère, c'est une mère célibataire. Et moi, je suis enfant unique. Elle s'est pas remariée, moi, j'ai pas eu d'autres petits frères et petites sœurs. Et il y a que nous deux. On a une relation qui est très, très forte, je pense.
Oui, vous avez une relation intense et toi, tu dis souvent que, en fait, pour toi, c'est elle la star, quoi. C'est la plus forte.
Les gens l'adorent. Vraiment, ils l'adorent plus que moi. C'est le petit, c'est la petite mascotte, en fait, de toute la famille d'Olière. C'est comme ça que j'appelle les gens qui me suivent.
Oui, parce qu'il faut dire que ton nom sur Instagram et sur les plateformes,
C'est The Doll Beauty.
The Doll Beauty.
The Doll Beauty, ça a toujours été The Doll Beauty. Et en fait, maintenant, ça a un peu progressé parce que les gens ont la flemme de dire The Doll Beauty et disent Dadol. Du coup, les gens m'appellent Dadol s'ils ne veulent pas m'appeler Marois.
Donc, tu grandis. Tu viens vivre en France avec ta maman.
Ouais.
Et là, toi, tu mènes un parcours assez, assez cool parce que t'es une bonne élève. Tu grandis heureuse. T'as ton bac. Tout va bien. Et il y a une copine qui te lance un défi, c'est ça?
Ah, tu connais vraiment ma vie, par cas, c'est vraiment trop marrant.
T'as vu, je sais pas.
Oui, bah en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au collège-lycée. En fait, c'était ma meilleure amie du collège. Et en fait, un jour, elle m'a lancé un défi parce qu'elle voyait que j'étais une très grosse consommatrice de vidéos YouTube, de youtubeuses beauté, surtout les anglo-saxonnes. Et je regardais ça H24. Vraiment, j'étais obsédée par ça. Je regardais vraiment, c'était mon petit loisir après l'école, après les cours. Et du coup, elle m'a dit, bah, pourquoi tu te lancerais pas? Parce que j'étais un peu la coiffeuse du collège. Enfin, tout le monde venait pour que je fasse des petites coiffures et tout. Et j'ai toujours kiffé ça. Vraiment, ça m'amusait. Et ce qui fait que, je me suis lancée comme ça. Vraiment, par pur hasard. Je me suis lancée. Je portais un pyjama du marché, je me rappelle. Et j'étais posée sur mon lit. En plus, on avait des invités ce jour-là. C'était un samedi. Et il y avait du bruit partout. Enfin, vraiment, c'était la vidéo la plus messie du monde. Mais pour moi, la plus authentique et la plus pure. Parce que vraiment, j'étais tellement timide. Et c'était vraiment cool. Et c'est là où j'ai commencé à faire du contenu beauté. Ce qu'il faut savoir, pour les auditeurs qui nous écoutent, il faut savoir qu'à mon époque, c'est-à-dire quand j'ai commencé, c'était en 2010, les filles n'avaient pas le droit de faire autre chose que de la beauté sur YouTube. Parce que déjà, c'était, pour le coup, c'était vraiment une activité niche d'être YouTuber. Enfin, on ne savait même pas ce que signifiait ce mot à la base. Mais en fait, quand tu étais une fille, tu ne pouvais pas faire de l'humour, tu ne pouvais pas faire du gaming, tu ne pouvais pas faire autre chose que de la beauté. Moi, entre guillemets, ça m'arrangeait parce que c'était ça que je voulais faire. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu un sexisme qui était très prédominant à cette époque-là. Et donc, il y avait beaucoup de youtubeuses beauté. Et c'est là où je me dis, j'en suis une parmi tant d'autres. Et du coup, j'ai commencé à faire du contenu coiffure, make-up, après mode, et ça a évolué. Et c'est resté mon contenu.
Oui, en fait, t'as petit à petit évolué. En fait, t'es passé aussi par le make-up et la coiffure parce que tu kiffais, mais parce que ouais. T'avais que cette voie ouverte pour les femmes à ce moment-là.
Je me suis lancée sur YouTube parce que on pouvait faire que ça. Et moi, c'est ce que je consommais, c'est ce que je kiffais dans ma vie. Donc, pour moi, c'était naturel.
Et en parallèle de ça, tu continues tes études?
Ah oui, oui, bien sûr. En fait, à mon époque, on ne gagnait pas d'argent. En fait, tu ne commençais pas YouTube et les réseaux. Enfin, il n'y avait pas vraiment de réseau, il y avait Facebook. Tu ne commençais pas vraiment les réseaux pour gagner de l'argent. En fait, c'était vraiment parce que c'était une passion. Et les plus gros stars, c'est Cyprien et Norman à l'époque. Donc, c'était une plateforme qui était très humour. Donc, la beauté, c'était encore moins connu que ça. C'était mon activité du week-end. Et ça a été ça, durant toutes mes études, jusqu'à mon master, vraiment, ça a toujours été mon activité du week-end. Et ça n'a jamais été vu comme un métier. Jamais, jamais.
Comment tu gérais le fait de faire des études? Parce que tu as fait une école d'ingénieur. Tu as fait d'abord une prépa, non?
Classe préparatoire, ouais. Pendant 3 ans.
Tu as fait des hautes études, en plus.
En fait, j'ai toujours été la petite tête de la famille. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, j'aime bien me lancer des défis personnels. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma vie, dans ma tête, ça peut être un peu toxique, en vrai. Le but, c'est toujours d'être la meilleure. Et en fait,
tu m'as regardé avec des gros yeux, c'est vraiment hilarant.
Non, mais c'est pour ma satisfaction personnelle, en fait.
D'accord.
Et du coup, quand j'arrivais en classe, dans n'importe quelle classe, de la primaire jusqu'à la prépa, etc., c'était toujours d'être la première. Et du coup, en fait, au fur et à mesure de mon cursus scolaire, mes profs m'ont toujours dirigée vers les meilleures études. Et du coup, quand j'étais au lycée, on m'avait parlé de classe préparatoire, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et on m'a dit, il faut que tu fasses une prépa, il faut que tu fasses une prépa, c'est la meilleure voie que tu puisses emprunter. Et j'étais là, ok, faisons prépa. Surtout que j'avais pas vraiment de débouché idéal dans ma tête. Je voulais juste faire un métier qui était cool. Du coup, je me suis lancée dans l'ingénierie. Je disais, mais what the fuck, qu'est-ce que je fais là? Et en vrai, c'était les meilleures années de ma vie. Ça m'a enseigné une certaine rigueur et ça m'a fait rencontrer des personnes incroyables. Mais j'ai aussi énormément souffert. La prépa, ouais, c'était dur. Mais du coup, en fait, ça m'a encore plus donné l'envie de me concentrer encore plus sur YouTube parce que c'était la seule chose fun que je pouvais faire dans la semaine. Après des 3 heures de sommeil par jour, le week-end, je devais réviser. Mais en fait, je me laissais que le samedi pour faire tournage, montage, publication. Et après, je retournais à mes révisions. Et c'était comme ça pendant 3 ans.
Mais t'es en train de complètement péter tous les clichés sur l'influence, on est d'accord?
Ah, comme quoi c'est des filles écervelées qui font pas d'études. En fait,
et au-delà de ça, qui foutent rien, que les influenceurs font rien. Enfin, je veux dire, toi t'es une énorme bosseuse.
Je pense que c'est aussi une question de mental et d'éducation, tu vois. Enfin, on m'a toujours poussée à faire donner le meilleur de moi-même. Et du coup, pour moi, c'était normal. Et franchement, moi, j'adore être tout le temps occupée, tout le temps faire des trucs et tout. Et du coup, après, je suis arrivée sur Paris, parce qu'à la base, je suis niçoise. Je suis arrivée sur Paris, école d'ingé, mental breakdown de ouf. J'ai bifurqué vers marketing de luxe, après marketing digital. Et quand j'ai fini mes études, c'est là où je me suis concentrée à plein temps à l'influence en tant que vraiment business.
Mais à ce moment-là, ta chaîne YouTube, elle monte
Elle monte petit à petit, c'est assez chill, c'est ma petite communauté, etc. Tu sais, avant, il y avait des paliers. Quand t'atteignais 10 000 abonnés, c'est un truc de malade mental, tu vois, c'était un truc de fou. Et la première à l'atteindre des youtubeuses que je suivais, pardon, c'était Enjoy Phoenix, je crois. Ou alors Joey Loves Mac, je sais plus. Mais en tout cas, on était genre 10, même pas à l'époque. Et en fait, quand j'ai vu ça, du coup, ça fait ting ting dans ma tête. Et j'ai fait, ah, je suis pas la meilleure, je suis pas la plus suivie de France. Et du coup, j'ai commencé à vraiment m'investir plus intelligemment, entre guillemets, dans ma chaîne. J'ai commencé à beaucoup plus réfléchir sur mes contenus, à être beaucoup plus régulière. Pas pour dépasser X ou Y personnes, c'était vraiment pour ma satisfaction personnelle. C'était vraiment un défi personnel que je me lançais. Donc petit à petit, ça a augmenté. Je faisais encore mes contenus beauté et tout. Et un jour, c'était en 2016, c'est là où tout a basculé en fait pour ma chaîne YouTube. J'ai commencé à parler de moi, mais vraiment moi. C'est-à-dire mes origines, ma religion, vraiment surpasser le domaine de la beauté, vraiment parler de ma personne, entre guillemets. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle le tag algérien. Tu sais, à l'époque, il y a beaucoup de questions-réponses, il y a beaucoup de vidéos qui étaient des tags. En fait, c'était des petits questionnaires. Du coup, j'étais tombée sur le tag algérien qui posait plein de questions sur l'Algérie. Je l'ai fait et ça a explosé, surtout en Algérie. Et c'est là où ça m'a ramené une énorme communauté algérienne qui m'a découvert en fait, sur YouTube, parce qu'avant, c'était très, très français. Et en fait, j'étais enfin moi-même, entre guillemets, tu vois, genre j'étais vraiment libre de parler de tout ce que je voulais parce qu'il faut aussi rappeler qu'à mon époque, parler de tout ce qui était religion, culture et tout, c'était très tabou. Personne n'osait, entre guillemets, dépasser les limites. Et moi, je les ai dépassées, mais parce que je m'amusais, en fait, c'était moi, tu vois, pour moi, c'était pas tabou de parler de qui j'étais. Du coup, j'ai fait cette vidéo, ça a explosé. Et après, je me suis sentie encore plus libre de m'amuser encore plus. Du coup, j'ai fait ma vidéo la plus vue de la chaîne, la routine Ramadan.
Je l'ai regardée, cette vidéo. Elle est hyper bien.
Elle est cringe de ouf. Ouais. Que non, mais je peux pas. Je ne regarde plus cette vidéo. Je la hais, vraiment.
Ah
c'est...
bon?
Ah non, mais il n'y a pas de focus. Je ressemble à rien. Enfin, elle est mignonne parce que, tu vois, j'étais jeune et innocente. Mais d'un point de vue, genre qualité, je ne peux pas. Je ne la regarderai plus jamais. Mais c'est aussi la vidéo qui a changé ma vie, au final. Et
en fait, tu racontes...
Ma
comment tu
Ramadan.
Vis pendant le Ramadan.
Exactement. Genre,
mais
pour
oui,
moi,
mais
il y a
c'est
un
intéressant. En fait, c'est hyper concernant pour ceux qui le vivent
ouais.
Et à qui on n'en parle jamais. Parce qu'en France, c'est très peu représenté. Mm-mm. De plus en plus, mais bon, quand même, ça reste assez peu représenté. Ouais. Et en plus de ça, ceux qui ne connaissent pas se disent « Ah, donc c'est comme ça une journée de Ramadan.
» C'est exactement la réaction que j'ai reçue. Ceux qui vivaient la même chose que moi se sont identifiés à moi. Et ceux qui ne connaissaient pas la religion ou cette période d'entre religion étaient super intéressés. Et du coup, c'était magique. Vraiment, la réaction de cette vidéo, qui était tellement innocente, parce que vraiment, elle est authentique, tu vois, parce que c'est moi, elle était magique.
Mais ce qui fait le succès aussi de ta vidéo, c'est ta manière à toi d'être à ce moment-là. Ce que tu dis là aussi, d'être hyper pur, hyper... On sent que tout ce que tu fais, c'est ultra sincère. Donc, ça, c'est hyper attachant.
J'essaye parce que c'est comme ça que j'ai toujours évolué avec mes contenus. C'est toujours de rien scripter, de parler avec mon cœur et pas avec ma tête. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes se sont identifiées à moi et se sont attachées à moi.
Et encore une fois, tu casses tous les clichés, toi. Parce que à ce moment-là, mais c'est vrai, c'est cool. Parce que à ce moment-là, t'es une jeune femme musulmane. On sait que, il y a certaines personnes qui ont dû t'envoyer des trucs pas très cool.
Ouais.
Mais en même temps, toi, t'es fan de K-pop.
C'était pas logique, ma vie, à cette époque.
Non, mais justement, c'est cool. Ça montre que, en fait, il n'y a pas des gens dans des cases qui écoutent tel style de musique parce qu'ils ont telle religion, qui portent tel vêtement parce qu'ils ont... Non, en fait, toi, tu vis comme une meuf normale avec ses goûts, ses envies, ses besoins et tu dis tout ce que tu penses.
Ouais.
Parce qu'aussi, je pense que chez toi, t'as une grande liberté. Je veux dire, ta mère te bride pas, te dit pas tu dois faire ci, ça, ça.
Ah non, du tout, du tout. En fait, ma mère était super stricte, donc ça me permettait de rester dans la limite du raisonnable, tu vois, et de vivre ma vie correctement. Mais elle a toujours été, enfin, m'a toujours soutenue. Par contre, elle était super contre que je sois sur YouTube. Ah. Vraiment, elle m'a... c'était inconnu à l'époque. Vraiment, quand tu dis je suis youtubeuse, elle me dit mais c'est quoi YouTube? Vraiment, enfin, il lui a fallu énormément de temps parce que c'est pas de sa génération à comprendre ce que c'était YouTube. Mais surtout quand je lui dis je fais des vidéos sur Internet, elle me dit mais what the fuck, tu m'effaces ça tout de suite. Et du coup, bah, j'ai dû négocier et négocier pendant très très longtemps pour continuer ma chaîne YouTube. Sinon, bah, en fait, j'aurais tout arrêté.
Et avec quoi tu te filmais à ce moment-là? Parce que j'imagine que tu n'avais pas l'argent pour investir
plein
dans un Canon 6D.
Ah ouais, oulala, oulala. Bah, même aujourd'hui, j'ai toujours pas de Canon 6D d'ailleurs. en fait, il y avait des modes. À l'époque, tu te filmais avec ta webcam. Ensuite, il fallait que tu achètes le dernier MacBook parce qu'il y avait la caméra, la webcam du MacBook.
Tu faisais avec la webcam du MacBook?
Ouais, mais c'était hyper tendance à l'époque.
Incroyable.
Ah ouais, mais c'était si tu avais un MacBook et que tu avais une webcam, c'était incroyable. Ah vraiment, tu étais au top. Et après, petit à petit, tu commences à avoir des petites caméras et après, les gros réflexes, etc. Enfin, tu t'évolues avec ton temps et avec tes moyens. Et en fait, quand ma mère avait découvert que j'étais youtubeuse, j'avais une petite caméra qu'on utilisait pour nos photos familiales. Et du coup, je la volais et je me filmais en cachette. En fait, elle n'a jamais su que je faisais des vidéos. Et le jour où elle a découvert, c'est quand j'ai cassé ma caméra accidentellement. Et je lui ai dit, maman, il faut qu'on en rachète une autre. Elle m'a dit, bah, c'est pas grave, j'en achèterai. En été, là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'ai dit, mais si, en fait, moi, j'en ai besoin. Et donc, j'étais forcée de lui expliquer pourquoi. Et c'est là où elle a découvert toute la supercherie.
La vie cachée dans
la vie vraiment Anna Montana.
C'est
littéralement.
Donc, il y a cette vidéo qui explose. Et là, il se passe quoi quand cette vidéo explose?
Ben, dans ma vie, rien. C'est mon train-train quotidien. Je lis les commentaires, je réponds, je kiffe et je passe à la prochaine vidéo. Et comme j'ai dit, j'ai attiré une énorme communauté algérienne. Et quand je suis partie du coup en Algérie, comme chaque été, c'est là où je me suis vraiment rendu compte de l'impact qu'a eu cette vidéo et ces vidéos autour de ma culture et de moi. Et quand je voyais les gens venir, se prendre en photo avec moi, me parler, rigoler avec moi, vraiment... J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, à Nice, il n'y a personne qui m'arrête. Enfin, c'est quoi ce délire? Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que ben, y avait des gens, en fait, qui me regardaient. Et ce n'était pas juste des vues, c'était vraiment des gens derrière les chiffres. Et c'est là que ben, j'ai encore plus pris du plaisir. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des vraies personnes qui me suivaient, qui me soutenaient et qui s'identifiaient à moi. Et je me suis encore plus lâchée. J'ai ramené mes cousines, j'ai ramené ma mère, j'ai ramené tout le monde. Allez hop.
Oui, c'est vrai que toi, tu montres beaucoup de toi. Tu montres tout. Il y a pas trop de tabou sur ta vie.
Là, je me suis un peu fixé des limites.
Tu t'es calmée.
Ouais. Parce que j'étais jeune et j'étais trop insouciante. Vraiment, je me rendais pas compte de qui regardait mes vidéos vraiment. Et il y avait énormément de personnes malveillantes, ce qui est normal. Tu vois, c'est le net, malheureusement. Et du coup, il y a plein de vidéos avec mes cousines que j'ai dû enlever parce que maintenant elles se sont mariées, qu'elles ont des enfants et qu'elles veulent plus être reconnues dans la rue, etc. Ce qui est complètement normal et je respecte. C'est pour ça que vraiment, enfin, il y a pas de prise de tête en fait. Ouais. Vois, genre vraiment, ça a toujours été fait naturellement. Si du jour au lendemain elle veut plus de la vidéo, ben je l'enlève et puis voilà. Et c'était un souvenir.
Il faut quand même dire aux jeunes que une vidéo qui a été mise en ligne, les images
elle
peuvent être récupérées.
Toujours en ligne. Ouais. Mais j'étais sur toutes les pages algériennes, toutes les pages maghrébines. Ouais, vraiment, c'était. À l'époque, c'était un délire. Vraiment, quand je faisais des vidéos sur ma culture et avec mes cousines et tout, mais c'était ça, tout se transformait en mème. Vraiment, c'était mème partout. Genre toutes les phrases qu'on
faut
disait.
Faut t'expliquer ce que c'est un mème, parce que si ma mère écoute, là, elle va pas savoir.
C'est un bout d'une vidéo généralement, et en fait, où on prend juste une phrase et ça devient un peu
une citation.
Ouais, une citation. Voilà, c'est ça un mème. Et en fait, ça nous permet de rigoler et de.
Et de se servir de sa tête pour faire des petits montages.
Exactement.
Rigolos.
Et j'étais vraiment parce que c'est vraiment trop marrant. Enfin, tout le monde connaissait mes cousines, tout le monde leur donnait des surnoms. Enfin, vraiment.
C'est incroyable. Ouais. Quand est-ce que tu t'es dit, ça y est, ça va devenir mon boulot à plein temps?
Bah, jusqu'à aujourd'hui, je me dis pas ça. En fait.
Bon?
Ouais. En fait, si je me mets dans la tête que c'est un boulot, je vais pas m'investir de la même manière.
Ok.
En tout cas, je vais pas m'amuser de la même manière. Et évidemment, je gagnais de l'argent avec YouTube. Bah, je l'utilisais pour le mettre dans mon livret épargne pour payer mon école après mes études, quoi. Enfin, tu vois, genre.
Tu vivais toujours chez ta maman?
Oui, bah oui.
Ok.
Ah ouais. Enfin, il faut savoir, chez les Maghrébins, il y a pas à 18 ans, tu sors de la maison. Non, non. C'est tu restes jusqu'à que tu te maries.
Ok.
Après, moi, bah, je suis partie parce que j'ai dû partir à Paris. Mais non, j'étais chez ma mère. On n'avait pas déménagé. Tu vois, enfin, je sais pas. Enfin, je vivais ma vie, quoi. Je faisais du shopping, j'économisais, j'étudiais.
Tu gagnais très bien ta vie ou raisonnablement, quoi? C'était pas encore
non,
la folie.
Non, tu gagnes bien ta vie. Mais tout ça, je le mettais dans mon compte épargne. Et tu vois, ça permet d'aller...
Toi, t'étais pas dans un truc où t'étais dans ta tête, t'étais devenue une grosse
star. Du tout. Et je pense que c'est aussi parce que c'était l'éducation que j'ai reçue, tu vois. Ma mère, très stricte. Et elle a toujours été pour que je reste dans les études. Et moi, j'adorais les études, j'adore les études, j'adore apprendre et tout. Et pour moi, c'était pas ma voie que de faire youtubeuse et influenceuse. J'ai toujours dit, même quand on remonte dans les anciennes vidéos, j'ai toujours dit, quand j'arrêterai mes études, j'arrêterai YouTube. Quand je me marierai, j'arrêterai YouTube. Et quand j'aurai mon premier enfant, j'arrêterai YouTube. Bah, pour l'instant,
et tu as menti.
Je me suis pas trop pliée à mes promesses. Mais en fait, c'est parce que je ressens pas l'envie, tu vois. Parce que pour moi, c'est toujours pas devenu un métier.
À un moment, t'as fini tes études quand même.
Ouais.
Et t'as continué YouTube.
Ouais.
Et YouTube, juste pour que les gens comprennent, ouais, t'es rémunéré au nombre de vues et au temps que les gens passent sur ta vidéo.
Très, très, très grosso modo, c'est au nombre de coupures pub que les gens regardent, pendant combien de temps ils les regardent, le nombre de vues aussi. Mais en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'une vidéo qui a fait 1 million, t'as eu 1 million d'euros ou 100 000. En fait, des fois, une vidéo à 30 000 peut faire beaucoup plus d'argent qu'une vidéo à 3 millions.
D'accord.
Vraiment, c'est pas proportionnel. Et ça dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs. Vraiment,
et puis aussi, il y a les partenariats intégrés. Si par exemple, tu fais un partenariat avec L'Oréal et que tu en parles dans le...
Bah, c'est sûr que c'est les partenariats qui me rémunèrent le plus dans toutes mes activités à travers les réseaux.
Aujourd'hui, à l'époque, c'était pas encore les partenariats.
Ah, je faisais pas de partenariat. Ben non, personne ne savait qui j'étais. En fait, j'ai débarqué à Paris avec 800 000 abonnés sur YouTube et 500 000 sur Instagram et personne ne savait qui j'étais.
Incroyable.
Parce que j'ai toujours été avec ma petite communauté. Pour moi, c'était... les gens qui me suivaient, c'est tout en fait. Ça n'a jamais été pour le business. Et c'était trop cool évidemment de voir plein de filles qui faisaient la même chose que moi sur les réseaux, bosser avec Too Faced, avec L'Oréal, avec le truc. Et je me disais, mais waouh, mais c'est mon rêve. Et ça s'arrêtait là et après je partais réviser quoi, tu vois.
C'est
mais
incroyable.
Quand je suis arrivée sur Paris, en fait c'est là où la vision business a pris un peu plus le dessus que juste je m'amuse le week-end. Parce que c'est là où je me suis rendu compte de l'impact qu'avait du coup l'influence sur le business et sur les marques, mais surtout... Bah, j'ai rencontré les RP, j'ai rencontré les marques et j'ai plongé dans ce milieu-là. Et je me suis dit, c'est ouf, tu vois, genre, c'est un univers de malade mental. Et je pensais pas qu'il y avait un aussi gros business derrière.
En plus, t'es dans un des milieux les plus lucratifs. La beauté, il y a beaucoup d'argent. Et la beauté, la mode et tout ça,
il y a
beaucoup, beaucoup de partenariats. C'est là où d'ailleurs il y a le plus de partenariats et où les influenceuses gagnent le plus d'argent. Après, il y a des influenceuses éthiques. Toi, je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur, par exemple.
Moi, je suis une psychopathe.
Voilà.
Ouais.
Toi, t'es un peu folle là-dessus.
Ouais, je fais très attention avec qui je collabore. Et des fois, mon agence est à mort de moi. Au début, enfin, surtout quand je venais d'intégrer mon agence, en fait, je refusais pratiquement tout. J'étais là, non, celle-là, je l'ai déjà vue avec une personne de personnalité terrarité, je veux pas travailler avec elle. Et ça, j'aime pas cette marque, ça, j'aime pas cette marque. En fait, je bosserai jamais. Et c'est vraiment une guideline que j'ai mis dans ma vie. Je ne veux pas bosser avec une marque que je n'aime pas, que je ne connais pas ou qui ne m'intéresse pas. On en voit beaucoup de refus, en fait. Et c'est pour le mieux parce qu'au final, ma communauté me fait confiance et aussi les marques me font confiance. Je ne suis pas vue comme la personne qui fait des partenariats à tout va, quoi.
Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que tu es juste un panneau publicitaire ?
Oh, vraiment, je m'en fiche. Ouais. En fait, ça arrive souvent quand je suis dans les VTC. Et tu sais, il y a toujours une discussion. Bon, maintenant, je réponds plus ça. Mais avant, quand on me disait, oui, vous faites quoi? Je disais, je suis influenceuse. Ah, d'accord, c'est quoi influenceuse? Donc, j'explique. Ah ouais, donc, ok, vous devez gagner beaucoup d'argent, du coup. Super, ouais, bon, en vrai, non. En fait, c'est un métier qui est très mal vu par tout le monde. Et c'est comme ça, en fait. Tu vois, genre, je m'en fiche.
Pourquoi tu penses qu'il est mal vu?
Et c'est un métier où on gagne beaucoup d'argent sans forcément donner beaucoup d'efforts. Tu vois, le rapport effort-gain, il est un peu inégal, tu vois. Et du coup, qu'on nous compare avec des personnes qui se lèvent à 4 heures du matin, qui vont à l'usine, qui bossent toute la journée, qui se cassent le dos, et au final, ils gagnent même pas 1%, on va dire, de ce qu'on pourrait gagner, oui, c'est frustrant. Et du coup, on ne nous voit pas comme ayant un métier qui mériterait en fait, d'avoir tout cet argent derrière. Mais le truc, c'est que comme les publicités, comme la télé, comme les acteurs, comme les chanteurs, en fait... c'est ton image que tu donnes et oui, c'est les avantages de ce métier, on va dire. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais c'est pas le seul but, en fait. Il y a beaucoup de choses.
Tu donnes ta vie, quoi.
Oui, voilà, tu donnes ton intimité, tu donnes ta vie. Après,
ton temps.
Énormément ton temps et ton énergie. En fait, ton métier, c'est ta vie. Ta vie, c'est ton métier, tu vois. Et donc, ça veut dire que si tu t'arrêtes de travailler pendant 3 mois, tu coupes les réseaux et on te voit plus pendant 3 mois, tu risques dans 3 mois, en fait, qu'on t'ait déjà oublié et qu'on soit passé à quelqu'un d'autre, tu vois. Et en fait, c'est tellement un métier qui pèse sur le psychologique. Que oui, tu donnes de ta personne, c'est comme ça.
Là, on a passé plusieurs étapes. Comment t'es devenue une des plus grosses créatrices de contenu française et comment t'en es arrivée là sans même trop t'en rendre compte, en fait, juste en faisant un truc qui te fait kiffer. Et même aujourd'hui, tu dis, je m'en rends pas compte puisque juste moi, ça me fait kiffer. Le jour où ça me fait plus kiffer, j'arrête.
Exactement.
En fait. Mais il y a plein de choses qui te font pas kiffer. et c'est le sujet du moment. J'ai eu l'impression même limite que c'était la mode à un moment.
La santé mentale.
Je me suis dit, attention les gars, c'est pas fun. Genre.
Ouais, non.
Donc toi, t'en as parlé, encore une fois. Mm-hmm. Je trouve que t'as vraiment eu le courage de dire, en fait, je vais hyper mal.
Ouais.
Pour plusieurs raisons. Mm-hmm. Peut-être que t'as pas envie de revenir sur toutes les raisons, parce que c'est... t'es fatiguée peut-être.
Ah ouais, on est fatiguée d'être mal tout le temps. En fait, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est cool que la santé mentale soit beaucoup plus mise en avant et qu'on en parle plus et que ce soit 10 fois moins tabou qu'avant, parce que je trouve que c'est aussi générationnel. La Gen Z, c'est elle qui a vraiment vulgarisé ce sujet-là. Et c'est bien maintenant qu'on en parle. Après, moi, j'ai aucun problème à dire « je ne vais pas bien », parce que comme j'ai jamais eu aucun problème à dire ce qui se passait dans ma vie. Enfin, tu prends aussi le risque d'être vu comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui est jamais content. Parce que c'est un peu le revers de la médaille. Tu partages ta vie, mais en fait, tu peux partager que le bien.
Et quand les gens peuvent se dire, non mais Marwa, attends, elle gagne bien sa vie, elle fait ses vidéos, elle nous fait bien marrer,
c'est
mais
ce qu'on me sort.
D'où elle fait une dépression alors qu'elle a plein de thunes.
Exactement. En fait, l'argent ne fait pas le bonheur, mais en même temps, il y participe. C'est une évidence. Mais tu peux être millionnaire, mais si t'es malheureux, t'es malheureux, en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'il s'est passé plein de choses ces dernières années. Moi, j'ai jamais eu un problème vraiment de santé mentale. J'ai été énormément stressée, énormément anxieuse durant mes études parce que voilà, la vie le voulait. Mais c'est vrai qu'en 2020, c'était là où je me suis vraiment heurtée à une très grosse déprime. Je dirais pas dépression parce que j'ai pas été diagnostiquée, je suis pas allée voir un médecin. Mais j'étais au plus bas. Vraiment, c'était l'enfer dans ma vie. Et parce qu'il y a eu des dramas sur les réseaux, etc. Et bah forcément, quand tu t'exprimes pas, t'es forcément vue comme la méchante. Et quand t'es vue comme la méchante, tu te fais harceler. Et du coup, en fait, j'ai vécu du cyberharcèlement. C'était fun parce que c'était en été. Tu vois, c'était vers août-septembre. Du coup, les gens, ils avaient pendant quelques semaines leur petit loisir à venir me DM, me menacer, me faire des insultes et me menacer de mort, etc. C'était cool pour eux. Ils sont bien amusés. Sauf que moi, en fait, j'ai continué à vivre ce calvaire pendant un an et demi après. Donc, ça veut dire que j'ai souffert pendant un an et demi, mais je ne pouvais pas le montrer parce que les gens étaient passés à autre chose, tu vois. Et ils avaient la flemme de reparler de ce sujet. Ils étaient fatigués. C'est bon, ils sont passés à autre chose, à d'autres dramas, à d'autres influenceurs. Et du coup, en fait, moi, je souffrais encore et encore et encore. Et un jour, c'est là où ils se sont vraiment rendus compte que derrière ma carapace de femme forte et indépendante et qui ne se laisse pas atteindre, il y avait quelqu'un qui souffrait. Et c'était à travers un live où j'avais fait comme ça un live parce que je lavais mes pinceaux. Voilà. Je lavais mes pinceaux.
Tes pinceaux pour te maquiller.
Voilà. Et en fait, je m'ennuie. Je dis, vas-y, je vais lancer un live. Et de fil en aiguille, les gens ont commencé à être de plus en plus curieux parce que je n'avais jamais parlé de ce qui s'était passé à ce moment-là, de cette histoire-là. Et du coup, les questions ont commencé à arriver. Et en fait, dans ma tête, ça a fait clic. Et j'ai fait, bon, c'est bon, j'en ai marre en fait, de cacher la vérité. Et j'ai dit ce que je ressentais. Je n'ai pas raconté l'histoire, j'ai dit ce que je ressentais, ce que je vivais depuis un an et demi. Et les gens, ils ont dit, waouh, en fait, il ne faut jamais se fier à ce que tu vois sur les réseaux parce qu'en fait, tout le monde peut cacher ce qui se passe vraiment dans sa vie. Et moi, dans la mienne, en fait, beaucoup de marques m'avaient blacklistée. J'avais des éruptions cutanées partout, j'avais des plaques partout sur mon corps, j'avais des gonflements, enfin j'avais triplé de volume en une semaine, j'avais perdu 5 kilos en une semaine, j'étais au bord de rompre mes fiançailles avec mon mari actuel. Vraiment, c'était l'horreur dans ma vie. Et même ma propre famille n'était pas au courant parce que je voulais alarmer personne et je voulais quand même garder cette image de femme forte, tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, avec du recul, vraiment, je me dis que cette très grosse période négative dans ma vie m'a permis d'être encore plus confiante, de me battre encore plus, d'être peut-être un peu plus vulnérable sur les réseaux et de baisser un peu mes gardes, tu vois.
Oui, en fait, d'avouer que en fait, tout le monde a des failles, même toi, la Marwa forte, brillante, etc.
Et c'est ce qui fait notre force, tu vois. Mm. C'est à travers nos faiblesses qu'on se rend compte de notre force.
Mais surtout, tu as dénoncé ce que tu vivais, parce qu'en fait, tu ne disais rien, tu prenais tout sur toi.
Ouais.
Mais en fait, humainement, c'est impossible de prendre une meute qui t'attaque.
Horrible. Horrible. Et en fait, surtout que les gens ne se disent pas, ouais, elle reçoit des centaines et des milliers de messages de haine tous les jours.
Ils disent, et tu les lis, bon, toi, ces messages?
Ah, j'étais addict. Non, mais il fallait voir, c'était tellement toxique. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu deux embrouilles dans la même année avec le même groupe d'amis.
D'accord.
Et en fait, la première embrouille, c'était vers, je crois que c'était vers juin. Donc, c'était une rupture amicale. Donc, forcément, il y a toujours deux camps, deux communautés qui se battent. Et la deuxième histoire, c'était une histoire jusqu'à ce jour dont personne ne connaît la vérité. Seules les personnes qui sont vraiment concernées. Qui s'est passé le lendemain de mon anniversaire. Et en fait, la personne avait décidé de dire des mensonges, en fait, tout simplement, sur les réseaux sociaux. Sauf qu'elle a rajouté tellement d'influenceurs à sa cause, on va dire, à l'histoire, que toutes les communautés de tous ces influenceurs sont venues m'insulter, moi. Et en fait, quand il venait sur mon compte, sur mes stories, parce qu'il pensait que j'allais faire comme tous les autres influenceurs et dire oui, bon, voilà, je m'exprime, je réponds, nanani, nanana. Moi, j'avais pas répondu et je m'étais filmée en train de faire une. De préparer une salade avec ma meilleure amie. Donc en fait, le truc, c'est qu'ils ont pris ça comme la provocation et ils en ont rajouté 10 couches après. Tu vois.
De la provocation que de dire, bah, en fait, je rentre
pas
dans
le conflit.
Que de
ne pas réagir, exactement. Et du coup, bah, forcément, bah, j'étais vue comme la fille qui s'en battait les steaks, qui prenait tout le monde de haut et qui faisait comme si rien ne l'atteignait. Et,
On est d'accord que jusque-là, c'est le collège. Vraiment, tout ce qui se passe, tout ce que les gens te font à ce moment-là, de se mettre en meute contre toi, c'est vraiment des histoires, c'est hallucinant.
Ah, mais c'est puéril. Mais surtout que quand tu vas sur les profils des gens qui t'envoient des menaces de mort, bah, au final, tu vois, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est des mères de famille parfois, tu vois. Donc tu te dis, mais enfin...
Oui, donc les gens, en fait, aiment tellement leurs influenceurs préférés et tout ça, qu'elles sont capables, ces personnes-là, de venir te voir à tel âge, donc majeur, et de t'insulter. Ok.
Il faut vraiment être hyper méga fan de quelqu'un pour prendre son téléphone, aller sur le profil de quelqu'un que tu ne connais pas, ni personnellement, ni même publiquement, parce que la moitié ne me suivait pas. Et d'envoyer un pavé, vraiment, il y avait des gens qui me racontaient limite leur vie, en fait. Un pavé que de haine. Je vais venir en bas de chez toi, je vais te violer, je vais tuer ta mère. Je vais... Vraiment, il me souhaitait le malheur, mais pour tout le restant de ma vie et pour toute ma famille. Vraiment, c'était disproportionné. La réaction que j'avais reçue n'était pas méritée, en fait. Tu vois.
Donc toi, tu lis tout, c'est ce que tu me disais, tous ces messages.
Du coup, je prenais mon téléphone. Toute la journée, j'ouvrais DM par DM par DM par DM. J'ai tout screené. Et en fait, jusqu'à ce jour, j'ai encore toutes ces captures-là. Enfin, ça n'arrête pas. Tu sais, quand tu te fais défiler ta pellicule, ça n'arrête pas. Et je me dis, mais un jour, je me suis dit, mais pourquoi j'ai tout ça? Et du coup, j'ai tout supprimé et ça m'a purifié mon âme et mon cœur.
Et comment tu t'en es remise? T'as été voir quelqu'un?
Non.
Un spécialiste?
Non, et c'était mon erreur. Je pense que j'aurais dû voir quelqu'un. Ça m'aurait aidé beaucoup plus rapidement. Mais j'ai décidé, en tant que femme forte et indépendante, de me soigner moi-même et de faire face à ça moi-même. Et crois-moi que c'était très, très compliqué. Je faisais 5 crises d'angoisse par jour, je pleurais tous les jours. Vraiment, c'était pas facile. Et je pense que si j'avais pas eu ma famille, mes proches, mes amis et la religion, je ne serais pas là assise devant toi, quoi.
Ah, tu penses que t'aurais pu te...
Ah oui, non, vraiment. C'est juste parce que le suicide est interdit dans la religion que je suis encore là. Vraiment.
Donc là, tu casses encore un énième cliché, hein. C'est-à-dire que l'influence, c'est pas toujours joyeux. Et souvent, moi, j'entends de plus en plus d'influenceurs qui disent qu'ils vont très mal.
Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont rendu ça à la mode. Et du coup, bah, ça décrédibilise vraiment les personnes qui ont des vrais problèmes de santé mentale, tu vois. Donc ça me frustre un petit peu. Mais c'est vrai que dans ce milieu, comme tout milieu où il y a ton image et ta vie qui est en jeu, où qui est mise tout le temps en avant, bah, forcément, ça a un coût sur ton psychologique et sur ta santé mentale. Ce qui est normal, c'est humain. Mais après, c'est à toi de savoir comment parer toute cette négativité, tout ce stress, cette pression que tu reçois à longueur de journée, tu vois.
T'as une énorme communauté algérienne, toi.
Oui.
Qu'est-ce que c'est le pourcentage algérien-français?
Honnêtement, ça dépend vraiment, vraiment, vraiment des plateformes. J'étais assez surprise par rapport à ça. Mais par exemple, tu vois, sur Instagram, c'est du 60% en Algérie.
Mais non.
Ouais.
C'est ouf.
Ouais, c'est dingue. Hein. C'est dingue, mais alors, par exemple, quand tu prends Snapchat, c'est que de la France. Enfin, c'est bizarre.
Enfin, oui. Tu vois, genre vraiment. En fait, aucune plateforme se ressemble,
ouais,
finalement.
Mais oui, je sais très bien que j'ai une énorme communauté algérienne parce que je produisais, bien, maintenant, ça, c'est un petit peu moins, mais je produisais beaucoup, beaucoup de contenu axé sur l'Algérie. Donc, forcément, j'attire une communauté algérienne et parce que je suis algérienne, quoi. C'est moi. Donc, c'est des gens qui me ressemblent, qui s'identifient à moi et voilà, c'est trop fun.
Toi, tu te sens aussi française qu'algérienne?
Bah oui.
Oui.
Bah, tout simplement parce que je suis née en Algérie. J'ai une éducation algérienne. Mes parents sont tous les deux français, non pas du tout. Ils sont tous les deux algériens, pardon. Mais toute ma vie, je l'ai passée en France. Donc c'est la France qui m'a construite, c'est la France qui m'a donné les opportunités que j'ai aujourd'hui. Et je suis aussi fière d'être algérienne que française, bien sûr. Je renie aucun des deux.
Et donc, t'évolues comme ça? Tu fais plus que les réseaux sociaux. Et quand je dis plus que les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous raconter une journée de Marois?
Ouh! Alors, en vrai, il n'y a aucune journée qui se ressemble. J'essaie de planifier vraiment toute ma semaine en amont. Comme ça, je sais où je vais. Sinon, je fais des mental breakdowns. Vraiment, il y a trop de trucs dans ma tête. Mais en gros, je me réveille. 7h30, 8h, voilà. J'essaie quand même de programmer de la création de contenu. parce qu'il faudrait quand même poster, tu vois. Mais après, en fait, j'avais toujours pris la tradition de filmer le samedi pour le dimanche sur YouTube. Du coup, ça, c'est vraiment une vieille habitude qui ne veut pas me lâcher parce que ça me permet de pas trop bien m'organiser au fur et à mesure du week-end. Mais en gros, c'est une journée qui est remplie de rendez-vous, que ce soit sur Zoom ou en présentiel. On fait du contenu, on répond à des mails parce qu'on a aussi avec mon mari des business à côté. On essaie vraiment de développer en dehors de l'influence et de faire tout ce qui est administratif, qui est la partie vraiment que je déteste. Vraiment, je hais l'administratif.
Alors là, tu as parlé de ton mari. Lui, il est arrivé après.
Oui, bien après.
Donc, tes abonnés te connaissent célibataire pendant je ne sais pas combien d'années.
Ah ouais, vieille fille limite. Vraiment, j'étais un cas désespéré.
Mais parce que tu racontais pas quand tu avais des crushs ou alors tu n'avais pas de crush et tu disais tout.
Ah non, je disais tout. Ah, mais vraiment, c'était, je me rends même pas compte, en fait, de comment ça pouvait sortir de ma bouche tout ce que je disais. J'étais vraiment, je parlais vraiment comme si, limite, il y avait personne qui me regardait. Vraiment, je me parlais à moi-même. Et j'avais tellement confiance aux gens qui me regardaient parce que, comme je t'ai dit, bah, je les considère comme mes petites cousines, mes petites sœurs, que, bah, je dévoilais vraiment tout. Quand je me suis mise avec Mohamed, bah, on a essayé de garder notre relation secrète pendant un an. Mais elle a été vite cramée au bout de 5 minutes de vidéo YouTube où je disais que j'étais en couple avec quelqu'un et les gens ont très très vite compris que c'était lui.
Parce qu'ils ont cherché.
Ils ont très bien cherché. Je ne sais pas comment ils font. Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment des agents du FBI dans ma communauté. C'était vraiment impossible. Impossible de trouver que c'était lui parce qu'on n'a jamais été ensemble dans la même pièce. Publiquement, tu vois.
Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux et comment tu faisais pour cacher petit à petit le truc?
Alors déjà, comment on s'est rencontrés, c'était vraiment le pur fruit du hasard. Vraiment, on dit vraiment que notre relation, c'est le fruit du destin. En gros, sa sœur, sa grande sœur, est influenceuse aussi. Sauf que les deux, ils habitent à Strasbourg. Et en fait, elle était invitée à un événement d'une amie en commun. Sur Paris, du coup, c'était une masterclass. Je me rappelle, je voulais tellement pas y aller parce que j'étais fatiguée à ce jour-là. Il y avait ma mère chez moi. Du coup, je me dis, oh, c'est bon, c'est pas grave, j'irai pas, j'ai pas envie d'y aller. Ma mère m'a dit, si, vas-y, vas-y. Donc, elle m'a un peu forcée à y aller. Du coup, j'y vais. Tout se passe super bien, trop bel événement, etc. Et du coup, je rencontre Mina, du coup, ma belle-sœur actuelle. Je la rencontre, on fait connaissance, le feeling passe trop bien. Et à la fin de l'événement, on avait un petit groupe et on était tous assis en cercle. Et d'un coup, la discussion sur ma vie amoureuse est mise sur le tapis. Et du coup, on me demande, est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis en couple? J'ai dit, en fait, les gars, ça fait 10 ans que je suis célibataire. Vraiment, il se passe rien, quoi. Et elle m'a dit, ah, mais c'est génial, j'ai mon frère. J'ai dit, ah non, les blind dates, trop beau pour moi. Je ne veux pas, c'est gentil, merci. Et tout le monde vraiment a pris ça très à cœur. Et ils ont forcé, en fait, limite pour le ramener. Du coup, moi, j'avais compris que c'était un guet-apens, sauf que lui n'était absolument pas au courant. Donc, elle lui a dit de venir. Il est venu, tu vois. Et après, on est tous partis au resto. Et c'était là où on s'est vraiment rencontrés pour la première fois. Et du coup, moi, j'étais super mal à l'aise parce que je me dis, mais en fait, ils sont tous en train de nous épier, vraiment analyser chaque mouvement de ce qui se passe. Et lui, il était trop chill alors. Bah ouais, tu fais quoi dans la vie? Et après, le feeling, franchement, il est passé. Et 2-3 semaines plus tard, on a fait notre premier date. And the rest is history. On s'est mis ensemble en mai. Et de mai jusqu'à décembre, on a vraiment essayé de cacher notre relation le plus possible. Et ce qui m'a amené à faire de moins en moins de contenu, de moins en moins de story. Parce que du coup, bah, on était tout le temps ensemble.
Bah oui, tu as envie de vivre ton truc. Là où ce métier, c'est pas un métier normal, tu vois. Les gens, normalement, ils ont leur métier, puis après, ils ont leur vie amoureuse.
Ouais, tu vois. Bah, en fait, ta vie, c'est ton métier.
Mais oui.
Tu vois, donc, t'es obligé de montrer ce qui se passe.
Ouais.
Et du coup, bah, vu qu'on était tout le temps ensemble à faire des dates, sortir, faire des activités, bah, je me dis, mais en fait, si je le montre, j'ai pas envie de cramer. En fait, j'ai pas envie. J'ai envie de garder ce petit truc pour moi parce que j'ai tellement tout partagé dans ma vie que c'est le seul petit truc que j'ai envie de garder pour l'instant, tu vois.
Je comprends.
Et je vois comment ça évolue parce que franchement, t'es un peu traumatisé de voir des couples qui, au bout de 5 mois, se séparent à cause des réseaux et tout, tu vois. Donc, j'étais de moins en moins présente et les gens l'ont de plus en plus remarqué. Et en décembre, on était à New York et on s'est dit, vas-y, viens, on l'annonce là. Et on a fait une bête de photos et on l'a postée. C'était un peu l'annonce officielle.
Et là, t'as fait du like. Hein.
Non, mais c'était vraiment... Mais il fallait voir les messages que je recevais. C'était hilarant. C'était vraiment comme si... T'avais une mère qui avait enfin marié sa vieille fille, tu vois. Genre vraiment, j'étais vraiment un cas désespéré. Ils ont dit, oh, on est trop heureux pour toi et tout. Vraiment, c'était...
Ah, les gens, ils t'aiment vraiment
c'était
sincèrement.
C'était autant, vraiment, c'est une réaction, mais c'était trop beau.
Et maintenant, carrément, bah, vous êtes mariés.
Oui.
Et même ton mariage, t'aurais voulu sortir les photos quand t'avais envie, mais ça ne s'est pas passé comme ça.
En fait, c'était un accident. Il y avait un de nos amis qui n'était pas au courant qu'il ne fallait pas publier notre mariage. Et du coup, en fait, c'est vraiment limite, il avait fait un vlog. En fait, il avait posté vraiment tout chaque minute de notre mariage sur les réseaux. Et les gens se sont empressés de tout screener, tout enregistrer et de tout repartager.
Sympa.
Et t'imagines, après ton mariage, t'es là, t'es trop bien. Tu dis, ah bah vas-y, je le partagerai dans une semaine, tranquille, je profite vraiment du moment. Et on revient du mariage. Je me pose comme ça, je prends mon téléphone. C'est la première fois que je prenais mon téléphone de la soirée, et tant mieux d'ailleurs. Et là, je vois ma tête placardée sur tout Instagram, toutes mes pages où on m'avait identifiée. Je dis, c'est quoi ce Del? J'ai fait un mental breakdown. Vraiment, ça m'a gâché le soir de mon mariage, genre de mon après-mariage. Vraiment, j'étais dans le bad. Vraiment, j'étais trop bien. J'étais vraiment en mode, bah, même ça, je peux pas le garder pour moi, quoi, tu vois. Genre, c'était comme si on t'avait vraiment volé un moment important de ta vie, c'était le cas. Et je suis revenue quelques jours plus tard et je leur ai dit, bon, bah, comme vous le savez déjà, je suis mariée, voilà, super, youpi.
Vous avez déjà les photos, pas
voilà,
la peine que j'en mette.
Que je poste.
Toi, tu veux des enfants?
Oui.
J'ai vu que c'était quelque chose que tu voulais, beaucoup d'enfants. Tu vas les montrer sur tes réseaux ou pas?
C'est une vraie discussion, ça qu'on a actuellement avec, avec Mohamed. En fait, je ne veux pas cacher mes enfants et que quelqu'un les photographie pour les montrer à ma place. En fait, je veux vraiment avoir le contrôle sur l'image de mes enfants. Je veux que ça soit naturel. Voilà, je veux que si, par exemple, je suis en train de faire une story qui passe derrière, qu'on le voit, son visage, ça ne me dérange pas. Mais en faire des contenus, en faire des comptes Instagram pour eux, franchement, non, je trouve ça... Ce n'est pas ma vibe. Je ne vais pas juger les parents qui font ça, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Tu vois. Donc, si on est amené à montrer nos enfants, ben, on les montrera. Mais en tout cas, je vais avoir le choix. Et je veux que ce soit moi qui ai le choix, pas quelqu'un que je connais pas, qui fait pas partie de ma vie, tu vois.
Et d'ailleurs, ton mari est maintenant un créateur de contenu.
Ouais, mais c'est un peu un métier à temps partiel, en fait. Ce qu'il a,
il fait quoi en plus?
Lui, il a une agence de communication.
D'accord.
Il bosse avec des marques pour leur image digitale.
Ah bah nickel.
Ouais, vraiment.
Vous êtes déjà tombés, toi,
de ouf. Mais c'est... En fait, il a créé sa boîte après qu'on se soit rencontrés, mais genre des années après. À la base, il est ingénieur financier. Et quand on s'est rencontrés, vraiment, il avait rien à voir avec l'influence. Vraiment, il était en mode flemme de ce milieu-là. Et c'est juste qu'il apparaissait en guest parfois dans les vidéos YouTube du coup de Mina, de sa sœur. Et en fait, je pense qu'à mes côtés... il a vraiment vu le côté business et ça l'a beaucoup plus motivé à entreprendre vraiment et de créer son propre truc à lui que de rester dans le salariat. Et du coup, bah, il s'est dit, vas-y, moi aussi, je veux monter ma propre structure. Donc, il a créé sa société. Et à côté, bah, forcément, vu qu'on nous voit tout le temps ensemble, il y a des marques qui se sont intéressées à lui. Et c'est là que, un peu par hasard, il a commencé à faire de l'influence. Mais vraiment, il voit ça comme quelque chose où il s'amuse vraiment. Il s'amuse vraiment trop de ouf et je suis vraiment contente pour lui. Il voit pas ça comme une opportunité financière, tu vois.
Oui, lui, il voit ça comme un truc, un passe-temps avec toi pour s'éclater. Et...
Ouais, vraiment, il a sa chaîne YouTube, il veut créer des vrais concepts. Là, il va lancer son talk, son podcast et franchement, je suis trop contente et je suis trop fière de lui.
Aujourd'hui, t'es heureuse ?
Ouais, trop heureuse.
C'est vrai?
Trop, trop heureuse. Vraiment, là, je touche du bois, je touche mon crâne. Mais non, je suis trop heureuse. Tout va trop bien.
Là, t'as quoi? T'as toujours ta marque?
Dadolink?
Oui.
Oui, alors, c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler.
Moi, je comprends rien.
Alors, pour expliquer, en 2021, j'ai créé ma marque de prêt-à-porter qui s'appelle Dadolink.
Parce qu'on m'appelle marque française.
Oui, oui.
T'as tout voulu. Ouais. Ça, bravo. Non, mais franchement.
Oui, mais du coup, ça s'est un peu retourné contre moi pour être honnête. Je voulais vraiment que ça soit qualitatif. Je voulais créer chaque pièce qui me ressemblait. Et vraiment, je me suis associée à des gens. J'ai travaillé avec des usines vraiment, je les ai saoulées. Vraiment, chaque petit détail, je reprenais tout.
Oui, mais t'avais un peu tes raisons parce que tu racontes que t'es tombée sur l'univers le plus misogyne.
Ah, mais. Horrible, horrible. Et en fait, tu sais, quand t'es jeune, quand t'es une femme, et quand tu viens avec ta toute nouvelle marque, et tu vois la vie en grand, et c'est génial, et tu veux faire des belles choses, ils te prennent vraiment pour une fille un peu superficielle et un peu demeurée. Du coup, ils te prennent vraiment pas au sérieux. Limite, ils te regardent même pas dans les yeux quand ils te parlent. Et ouais, j'ai dû être un peu coriace et féroce dans ce milieu-là. Mais c'est trop bien, parce que ça m'a vraiment appris tellement de choses. C'était hyper instructif. C'était vraiment génial, génial, génial. Mais du coup, j'ai décidé de tout produire en région parisienne. C'est même pas genre un petit patelin français. Non, vraiment le plus cher qu'on puisse trouver. J'ai acheté mes boutons au sentier. Vraiment, c'était vraiment... Je me suis prise pour Chanel. Parce que je voulais vraiment donner quelque chose de qualitatif. Et on entend beaucoup parler de Made in France et d'éthique, etc. Du coup, je voulais pas proposer n'importe quoi. Ça m'a coûté extrêmement cher. Je me suis bien amusée. Ça s'est vendu, c'est génial, ça a fait rupture de stock. Sauf que maintenant, je me suis dit, ok, voilà, là, on s'est bien amusé, c'était fun, youpi, tralala. T'as réalisé un rêve, maintenant, il va falloir parler business et il va falloir parler prix. Et du coup, j'ai tout revu au changement, j'ai tout revampé. Et surtout qu'en plus, avec l'inflation, la guerre en Ukraine, le Covid, c'était la galère. Vraiment, tout était 10 fois plus cher. Et je voulais pas vendre à des prix super chers à ma communauté parce que c'est pas les prix que je voulais utiliser. Et du coup, bah maintenant, j'ai mis en pause et on est en train de tout retravailler.
D'accord.
On a délocalisé, mais elle existe encore. C'est okay. Juste que j'ai tout fermé le site, je l'ai refait. j'ai pris une autre société de logistique. Enfin, j'ai tout bien cadré.
Est-ce que tu as un peu le syndrome de l'imposteur? Parce que dans quasiment toutes les interviews que tu fais, Marwa, ouais. Tu dis, je sais pas pourquoi les gens y m'aiment, mais je comprends pas pourquoi ça marche pour moi, mais pourquoi ça marche pas pour une autre fille qui fait ça?
Pour moi, c'est pas un métier où tu te tues à la tâche. Vraiment, on va dire physiquement. Tu sais, quand tu vois les éboueurs, quand tu vois les gens qui travaillent à l'usine, quand tu vois... Vraiment, en fait, je me dis, eux, ils méritent d'avoir un train de vie incroyable. Mais tu sais, nous, même si on fournit énormément de travail, on est énormément d'efforts, je vais pas dire qu'on fout rien toute la journée, parce que ce n'est pas vrai, et je connais ma journée quand même. je travaille, des fois, je ne vis pas. Je dors pas, je fais des nuits blanches pour finir un montage, pour finir un projet. Donc oui, je sais que je travaille. C'est juste que, pour moi, en fait, c'est le rapport... Encore une fois, énergie gain qui me stresse un peu parce que je viens d'une classe moyenne et je sais ce que c'est que de travailler à pas d'heure. J'ai vu ma mère, des fois je ne la voyais pas parce qu'elle enchaînait plein de petits boulots pour qu'on survive. Et maintenant, je suis fière parce que j'ai ce train de vie que je peux avoir et que je peux offrir à ma mère et à mes proches. C'est sûr, j'en suis fière.
Tu partages avec ta famille?
Ah ouais, de ouf. Moi, je me prends pour Kim Kardashian. Enfin, je donne des cadeaux à tir la rigo. C'est génial, tu vois, parce que c'est ça, pour moi, la liberté et le plaisir, tu vois, de faire plaisir aux gens. Mais est-ce que je mérite ce train de vie-là? Ça, c'est notre question. Mais j'en suis fière.
Bon, bah, c'est bien déjà
que t'en sois fière. Ouais, c'est un dilemme toute ma life, je pense.
Oui. Et si tout s'arrête?
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais?
J'ai un coussin pour amortir. En fait, c'est pour ça que je te disais, on a plusieurs business à côté. Parce que je sais que l'influence, ce ne sera pas pour toujours. Et je sais que je commence à vieillir et c'est un marché qui sature. Il y a énormément de nouvelles têtes. Et je ne vais pas rester sous la lumière toute ma vie. Enfin, j'espère pas, en tout cas, à 80 ans, continuer à faire des stories. Enfin, ce n'est pas mon but, tu vois. Donc, ça s'arrêtera le jour où ça voudra s'arrêter ou le jour où je voudrais m'arrêter aussi. Et à côté de ça, je vivrai de mes business, mais dans l'ombre.
Et ce serait quoi, du coup, ton goal ultime? Tu voudrais être actrice? Tu voudrais être...
J'aimerais bien, peut-être recevoir des meufs vraiment badass. Ouais, ça serait vraiment mon goal dans le futur de ma carrière YouTube. C'est vraiment de mettre en avant des femmes entrepreneuses et de m'entourer de plus en plus d'entrepreneurs et de gens qui parlent business tout le temps. Parce que c'est hyper intéressant.
Donc, en fait, tu sais déjà ce que tu veux faire.
Rester businesswoman.
Donc, t'es féministe?
Ouais, grave. Après, chacun sa définition. Mais ouais, pour moi, tout le monde devrait être féministe. C'est la base.
On va terminer ce podcast avec les deux questions que je pose à tous les créateurs de contenu qui viennent me voir. Alors, première question, attention, c'est la formation de Marwa.
Oh, mon Dieu.
Voilà. qu'est-ce que tu dis à une fille, plutôt une fille du coup, qui veut se lancer, qui ne sait pas trop comment faire, qui est là, oh, j'ai des idées, mais qu'est-ce que je fais? J'ai peur de le faire, je ne vais pas le faire, je ne poste pas. Qu'est-ce que tu lui dis de faire?
Ouh, ça, c'est une question qui m'est tellement posée par les gens de ma communauté. Je dirais d'être soi. De proposer du contenu qui nous plaît, de ne pas se créer un personnage parce que ça ne marchera pas, les gens ne vont jamais s'attacher à toi, de rester authentique et juste de garder ses valeurs. En fait, de faire du contenu, mais de garder quand même ses valeurs, de ne pas prendre la grosse tête et juste de rester les pieds bien ancrés au sol.
D'accord, donc juste être soi.
Et poster, en fait, on arrête de réfléchir. On est en 2023, on arrête de se poser des questions dans la vie, on poste. On a envie de faire un truc, on le fait. On a envie d'entreprendre, on le fait.
On est libre.
Ouais. 2023, it's
et
great.
Maintenant, je voudrais que tu me donnes un compte Insta ou TikTok, peu importe YouTube, à suivre. Genre, un seul. Je suis désolée, je sais, c'est horrible.
J'irai Liv, parce qu'on va rester influenceuse française, on va donner de la force. Liv, L-I-V. Je sais pas si tu connais, mais je l'adore. Et maintenant, elle est sur TikTok, je suis trop contente. Mais en fait, elle raconte plein d'histoires de faits divers, plein de trucs un peu paranormaux et tout, des fois. Et c'est trop bien. Sa qualité d'image, elle est trop bien. Son micro est trop bien. Elle est trop cool. Vraiment, j'adore les créateurs comme elle et il en faudrait bien plus.
C'est bien, en plus, t'as cité une femme. Bravo.
Oui, girl power.
Merci beaucoup, Marwa. J'ai adoré ce moment pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme je l'ai dit tout au long du podcast, tu casses tous les clichés et ça, on adore. Et en plus de ça, même si tu fais de la beauté, c'est des artistes. Hein, arriver à se faire le truc que t'as sur le visage, c'est trop beau. comment tu fais ça? Et voilà. Et en plus, tu parles vraiment pas que de ça. Tu touches à tous les sujets, tu le fais bien. Et en même temps, tu le fais toujours avec le smile, c'est trop agréable.
Merci beaucoup, merci vraiment de m'avoir reçu. C'était super intéressant, c'était trop fun. Et j'espère te revoir très bientôt.
Mais oui, attends, bien sûr, à très vite.
Très très vite, merci encore.
Merci à vous d'avoir écouté Followers, le podcast énergie qui décrypte le milieu de l'influence et les réseaux sociaux en donnant la parole à vos créateurs et créatrices de contenu préférés. Il est animé par moi, Pauline Borgia, et c'est un plaisir. Mais ce podcast, c'est un beau travail d'équipe. À la réalisation, Cédric Ledoré, à la rédaction en chef, Maud Ventura, à la production, Lise Lovati et Nina Minotto, une équipe joyeusement dirigée par Sarah Conan. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Diffusez-le, partagez-le sur les réseaux sociaux, bien sûr. Je veux voir vos posts, vos stories et vos réels. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, par exemple. On adore lire vos retours. Merci d'être là. À très vite. Bisous. Mmh.